de la vie et de la terre.
Thème 3. Corps humain et santé. Terminal spécialité. Grand B. Produire le mouvement, contraction musculaire et apport d'énergie. Chapitre 1. La cellule musculaire, une structure spécialisée permettant son propre raccourcissement. Que ce soit lors d'un réflexe ou que ce soit lors d'une commande volontaire, comme en faisant du sport par exemple, nos muscles se contractent et permettent la mise en mouvement de notre squelette en jouant sur les articulations. C'est pour cette raison qu'ils sont appelés muscles squelettiques. Ces muscles sont organisés en tissus composés de cellules spécialisées qu'on appelle les rhabdomyocytes et qui présentent une striation transversale. Pour cette raison, et à cause de ça, ces cellules sont aussi appelées plus communément les cellules musculaires striées. Alors problème, comment est organisé le muscle strié? Comment la contraction musculaire s'effectue? Et enfin, comment expliquer certaines pathologies liées aux muscles, telles que les myopathies? Voyons tout d'abord le grand A, organisation du muscle strié. Et grand A, les muscles striés squelettiques permettent le mouvement du squelette. L'ensemble de la musculature d'un être humain peut être observé sur un écorché. Un écorché, c'est la représentation d'un corps sans la peau. Donc on voit directement les muscles. Or, il existe trois types de muscles. Les muscles lisses, ils servent le plus souvent à réguler des ouvertures de vaisseaux ou conduits urogénitaux. Le muscle cardiaque, c'est un muscle creux, strié, très particulier, moteur de la circulation sanguine. Et les muscles striés squelettiques, qui, eux, permettent de mettre en mouvement notre squelette. Seuls ces derniers nous intéressent dans le cadre de ce chapitre. Alors ces muscles striés squelettiques encadrent donc des articulations osseuses. Ils sont implantés d'un côté sur un os grâce à un ou plusieurs tendons et de l'autre côté sur un autre os grâce aussi à un ou plusieurs tendons. Pour mettre en mouvement notre squelette, le muscle se contracte ou se relâche. L'état contracté correspond à un état raccourci, tandis que l'état relâché correspond à un état étiré. Donc en fait, dans un mouvement de membre, il y a toujours un muscle et son antagoniste. Pendant que l'un est contracté, l'autre est relâché, donc allongé, et inversement. Cela signifie donc que même au repos, certains muscles sont contractés. Grand B, la cellule musculaire. Alors les muscles striés sont des tissus contractiles constitués de cellules spécialisées. Le myocyte strié, ou que j'ai appelé encore en introduction le rhabdomyocyte, ou cellules musculaires striées, c'est la même chose. Alors ce type de cellules fait partie de cellules les plus longues du corps humain et sont plurinucléées. Elles s'organisent en fibres étant reliées aux os par les tendons. Chaque fibre est une cellule géante, très allongée, et comporte des centaines de noyaux. C'est ce qu'on appelle en biologie un syncytium. Une observation au microscope de ces cellules permet de visualiser des structures appelées myofibrilles, qui, elles, sont striées. Ces stries correspondent en fait à des unités moléculaires qu'on appelle des sarcomères. Les myofibrilles correspondent au cytosquelette de la cellule. Et en fait, c'est un cytosquelette qui est ultra spécialisé. La membrane de la cellule est appelée sarcolemme, du grec sarco qui signifie chair et lemme qui signifie pelure. Et le cytoplasme, par extension, s'appelle sarcoplasme. Les myofibrilles sont entourées de sarcoplasme, de mitochondries, pour la fourniture en énergie lors de la contraction, et de réticulum sarcoplasmique, qu'on avait vu auparavant lors de la stimulation, en fait, du muscle lui-même par le nerf et le motoneurone, pour la fourniture en ion calcium lors de la contraction. Grand C, le sarcomère, unité fonctionnelle d'une myofibrille. Alors d'abord, commençons par définir ce qu'est un sarcomère. Le sarcomère, c'est l'unité moléculaire fonctionnelle et contractile de la myofibrille striée appartenant au myocyte. Petit 1, la structure du sarcomère. Les sarcomères ont la faculté de se raccourcir. Ils sont composés de deux sortes de filaments, ce qu'on appelle les myofilaments fins, et d'un côté, et les myofilaments épais, de l'autre. Alors, sur ce qui va suivre, je vais m'appuyer sur le document 6 de votre cours, c'est-à-dire page 6, l'organisation du sarcomère. Et attention, si vous n'avez que la photo, il s'agit d'une électronographie, c'est-à-dire d'une microscopie électronique à transmission, d'une cellule musculaire focalisée sur un sarcomère. Et donc, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est l'organisation du sarcomère lui-même. Vous devez connaître par cœur, en fait, le schéma d'interprétation que vous avez en bas des photos. Et vous devez être capable de le reproduire. Alors justement, d'après ce document 6, vous pouvez voir au microscope électronique qu'un sarcomère est délimité par deux disques ou lignes Z. Ça vient de l'allemand Zwischen, et qui veut dire « entre ». Et elles apparaissent comme des lignes noires au microscope électronique à transmission. À côté de cette ligne Z, on trouve une bande I. I pour isotropique, c'est-à-dire très clair. Pour vous en rappeler, appelez I illuminé. Et ça, ça correspond au myofilament fin uniquement. La bande A pour anisotropique, car très foncé, vient ensuite. Elle correspond à la superposition des myofilaments épais et fins. Enfin, on retrouve une partie plus pâle dans cette région qui est appelée la zone H. Ça vient de l'allemand Heller, et qui signifie plus pâle. Finalement incluse dans cette dernière, la mince ou ligne M de l'allemand Mittel, qui signifie centre, se situe à l'intérieur. La ligne M est la zone d'attache des myofilaments épais. La bande A et I ont été nommées d'après leurs propriétés sous microscope polarisant. Les bandes A et I ont été nommées d'après leurs propriétés sous microscope polarisant. Les bandes A et I, ainsi que la ligne Z, sont visibles au microscope optique. Alors, le sarcomère a la propriété de se raccourcir. On constate que lors de la contraction, la part des bandes claires, bandes I et H, diminue très fortement, alors que la taille de la bande sombre, A, elle, reste constante. On en déduit que les myofilaments fins s'imbriquent dans les myofilaments épais. Attention, cela fait partie de démonstration ou d'argumentation. Petit 2, les myofilaments fins. Les filaments fins ont un diamètre d'environ 7 nanomètres et dont la constitution principale est une protéine, l'actine. Ces filaments d'actine, ou actine F pour filamenteuse, sont composés de deux chaînes linéaires qui s'enroulent l'une autour de l'autre pour former une double hélice constituée à partir d'actine globulaire ou actine G. Petit 3, les myofilaments épais. Les filaments épais ont un diamètre d'environ 15 nanomètres, soit le double des filaments fins. Et ils sont essentiellement constitués d'une espèce moléculaire, la myosine. Plusieurs centaines de molécules de myosine s'assemblent pour former un filament épais. Les parties arrière de ces molécules sont rassemblées parallèlement, tandis que les parties avant ont des têtes globulaires qui dépassent en périphérie de ce filament et sont donc disponibles pour pouvoir se fixer au filament d'actine. Alors maintenant que nous venons de voir l'ultrastructure cellulaire du myocyte et sa structure moléculaire, entrons un peu plus dans le détail du mécanisme de la contraction musculaire. Grand 2, la contraction musculaire et ses pathologies. Grand A, le mécanisme moléculaire de la contraction. Le document 9, Évolution de la tension d'une cellule musculaire exposée à différents milieux, est un document important que vous devez pouvoir reproduire, puisqu'il doit vous permettre d'argumenter en fait les propos du mécanisme. Donc attention, essayez d'apprendre ce graphe qui est très utile. Les filaments de myosine possèdent des extrémités globuleuses appelées têtes, qui peuvent se fixer sur les filaments d'actine. En se fixant et en se détachant de façon répétitive, les filaments d'actine et de myosine coulissent les uns par rapport aux autres, ce qui raccourcit le sarcomère d'environ 25% de sa longueur. Mais cette action nécessite calcium et ATP. Pour ce qui suit, je vais m'appuyer sur le document 10 les mécanismes moléculaires de la contraction. Et attention, il faut l'apprendre par cœur et savoir le refaire et l'expliquer. Il s'agit donc du cycle moléculaire et énergétique de la contraction musculaire. Cela signifie que l'on peut voir ce cycle se réaliser plusieurs fois pour voir le muscle se raccourcir de 25%. Alors petit 1, de l'ATP est hydrolysé en ADP et du phosphate inorganique au niveau de la tête de myosine est fixé. La tête de myosine s'arme en changeant de conformation. Elle bascule vers l'arrière de l'actine et est prête à être fixée. Le muscle est alors au repos. Sans calcium, le muscle restera au repos. Mais avec calcium, le phosphate inorganique est expulsé. La tête de myosine se fixe alors à l'actine en conservant de l'ADP fixé à la tête de myosine. Un complexe actine-myosine est alors formé. Puis l'ADP est expulsé. Avec cette élimination, la tête de myosine bascule vers l'avant, entraînant avec elle l'actine. L'actine coulisse donc sous un effet de coup de rame de la myosine. La myosine reste fixée à l'actine. Sans ATP, la tête de myosine reste accrochée. Et par exemple, c'est le cas de la rigidité cadavérique. Tous les muscles sont durs et figés. En présence d'ATP, la molécule énergétique se fixe à la tête de myosine et provoque son détachement de l'actine. Si la contraction s'intensifie, un nouveau cycle s'additionne au premier, resserrant encore plus les filaments d'actine autour des filaments de myosine et diminuant donc les bandes I. Ainsi, la fixation d'une molécule d'ATP est nécessaire à la rupture des liaisons entre l'actine et la myosine, tandis que l'hydrolyse de l'ATP permet un basculement de la tête de myosine, c'est-à-dire son réarmement, qui pourra alors se fixer un peu plus loin sur le filament d'actine en présence de calcium. Mais en son absence, la tête de myosine est prête et armée. Pour une future contraction, le muscle est quant à lui au repos. On voit bien toute l'importance du calcium dans la contraction musculaire, et donc la nécessité dans le réflexe myotatique de stimuler la libération de calcium du réticulum sarcoplasmique qui entrera dans le cycle de contraction grâce au potentiel d'action se propageant dans les tubules T. L'intensité de contraction est donc codée en concentration de calcium. Et sans ATP, le muscle reste contracté. Avec ATP, le muscle peut se retrouver dans son état de repos. Grand B, exemple de pathologie musculaire, les myopathies. Les myopathies sont des maladies neuromusculaires. Elles se traduisent par une dégénérescence et une nécrose irréversible du tissu musculaire. On parle bien de dystrophie musculaire. Elles sont le plus souvent héréditaires et constituent une des pathologies génétiques les plus fréquentes avec la mucoviscidose. On entend souvent parler des myopathies au moment du Téléthon, aux alentours du 10 décembre, puisqu'il s'agit de la maladie emblématique de la recherche du Téléthon. Il existe de nombreux types de dystrophies musculaires, et il ne s'agit pas de les étudier toutes dans ce cours. Voici juste deux exemples, l'une s'appelant la myopathie de Duchenne, l'autre la myopathie de Becker. Alors tout d'abord, la myopathie de Duchenne est une maladie génétique monogénique, c'est-à-dire à un seul gène, qui se traduit par une dégénérescence progressive de tous les muscles squelettiques, les muscles lisses et les muscles cardiaques. Les premiers symptômes apparaissent vers 3-5 ans et la faiblesse musculaire s'étend inexorablement, progressant par la suite et finissant par affecter in fine les muscles respiratoires, ce qui entraînera la mort de l'individu plus tardivement. La myopathie de Becker, quant à elle, débute plus tardivement, c'est-à-dire elle démarre en général vers 10-11 ans et se traduit par des symptômes moins sévères. Quoi qu'il en soit, ces deux myopathies sont dues à des mutations du gène DMD ou dystrophie musculaire de Duchenne située sur le chromosome X. Ce dernier code pour une protéine des fibres musculaires, la dystrophine. Alors pourquoi les muscles dégénèrent-ils ? En fait, le gène DMD est le plus grand gène du génome humain avec une longueur de plus de 2,5 millions de paires de nucléotides et est organisé en 79 exons relativement courts par rapport aux introns eux-mêmes. La dystrophine est une grande protéine qui assure le lien entre les fibres musculaires d'une part et la matrice extracellulaire d'autre part, et par l'intermédiaire d'un ensemble protéique appelé complexe membranaire de dystroglycane, ce dernier joue un rôle majeur dans le maintien de l'intégrité des fibres musculaires lors de la contraction et permet justement à ce qu'elles ne se déchirent pas. Ainsi, sans dystrophine ou alors avec une dystrophine mutée, comme par exemple des mutations qu'on pourrait avoir à l'extrémité, et ne se raccrochant plus donc au complexe protéique membranaire, la cohésion cellulaire n'est plus du tout assurée. Et au fur et à mesure des contractions musculaires qui peuvent se produire, les cellules musculaires finissent par se désagréger et donc dégénèrent petit à petit. L'individu atteint de myopathie perd donc sa masse musculaire et finit par perdre sa locomotion et la motricité des bras. Le stade ultime est la perte de la motricité des muscles respiratoires ou cardiaques, entraînant son décès. Comme toutes les maladies génétiques, celle-ci est dramatique. Néanmoins, grâce au Téléthon, un jeune garçon atteint de myopathie de Duchenne a été traité pour la première fois par thérapie génique à Paris en 2021. Le traitement consiste à apporter dans l'organisme une version raccourcie de la dystrophine et palliant à la protéine déficiente. Il s'agit donc d'un gène raccourci qui s'introduit grâce à un vecteur, un virus, dans les cellules du patient et qui vient rétablir les déficiences mutagènes de la dystrophine d'origine du patient. Je vous engage à bien suivre le Téléthon dans les années futures parce que vous allez certainement vivre des révolutions médicales. Alors pour conclure, le sarcomère est bien l'unité structurale et contractile du muscle strié commandé par voie nerveuse. Le glissement des filaments protéiques d'actine et de myosine constitue le mécanisme moléculaire de base de la contraction musculaire. Quand le sarcomère raccourcit, le muscle se contracte et rapproche deux os l'un de l'autre, mettant en mouvement le squelette. Cette contraction est nécessairement couplée à la présence de calcium et à l'hydrolyse d'ATP qui fournit ainsi l'énergie chimique nécessaire à l'exécution du mouvement qui, lui, sera alors développé en énergie mécanique. Cependant, d'autres protéines interviennent dans le bon fonctionnement des muscles, comme par exemple la dystrophine, qui en cas de mutation provoque la myopathie, et ne permet pas une bonne cohésion contractile de toutes les fibres musculaires les unes par rapport aux autres, et ce qui finit par engendrer une dégénérescence musculaire létale pour le patient. Ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Attention néanmoins aux jonctions possibles auparavant avec le système nerveux et après avec la fourniture en ATP par la respiration cellulaire et la fermentation, et même avec les flux de glucose. Science,